Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
C'est notre première prédication le premier jour de l'année. On ne peut pas faire mieux. Voilà, donc je propose que nous ouvrions notre Bible dans l'épître de Paul, la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2 et au verset 8. Alors ça fait partie des textes incontournables, si je peux m'exprimer de cette manière. Parce que c'est la base de notre salut, de notre foi, et j'y ajouterai notre service, parce que je voudrais lier ce matin la notion de salut avec cet appel et cette vocation à servir le Seigneur. Alors voilà, donc Éphésiens chapitre 2, verset 8, et vous connaissez ces passages. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Voilà ce que Paul enseignait à ses amis, ses frères de cette communauté chrétienne d'Éphèse. Je voudrais simplement rappeler que Paul pose les bases de ce qu'est le salut. C'est par la foi que vous êtes sauvés. Et il dira bien, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est vrai que les hommes n'ont eu de cesse d'inverser finalement l'ordre des choses. C'est par la foi, ce n'est pas par les œuvres. Et nous savons qu'il y a beaucoup de confessions, y compris, et on parlera et on pense aux confessions chrétiennes, qui véritablement ont fait dépendre le salut des œuvres. Jacques nous en parle dans son épître. Il nous dit que, eh bien là, les œuvres sans la foi est morte, ou la foi sans les œuvres, c'est mort. Donc, il faut bien mettre les choses comme elles doivent être situées et replacées. C'est que nous sommes sauvés par la foi. C'est une grâce, c'est pas un mérite, c'est pas quelque chose que eh bien, nous aurions peut-être acquis par ceci ou cela. Et c'est un don. En plus, c'est un don, c'est une grâce, on pourrait dire c'est un cadeau de Dieu, c'est un présent de Dieu, c'est un privilège, c'est une faveur de Dieu. Je suis en train de multiplier les mots, mais il faut que cela soit bien intégré parce que c'est important. Et puis, vous avez remarqué avec moi, ensuite, il est question des œuvres. Et nous sommes l'ouvrage de Dieu. Pour quelle destination? Nous allons le voir. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Cela nous rappelle naturellement la nouvelle naissance. Cette action de l'Esprit qui nous a amenés à reconnaître notre perdition, nos péchés, nous amener à confesser nos péchés, nous amener tout simplement à nous repentir. Et puis ensuite, à suivre Jésus, ça s'appelle se convertir, à le prendre pour Seigneur et Sauveur, et à ensuite naître de nouveau. Nous sommes son ouvrage. Ce que nous sommes les uns et les autres, ce n'est pas tout simplement le résultat ou le produit de quelque chose qui viendrait d'en bas des hommes, mais ça vient d'en haut, tout simplement. Et nous avons donc été créés en Jésus-Christ. Nous avons été créés une première fois, mais nous avons été recréés. Nous avons une deuxième création, c'est ce que je viens de dire il y a un instant, et dans un but, c'est-à-dire des œuvres bonnes, ou des bonnes œuvres. J'aime pas trop la connotation bonnes œuvres, parce que c'est tellement imprégné de quelque chose qui ne va pas avec l'esprit du salut par la foi. Les bonnes œuvres ou les œuvres bonnes, et tout cela a été préparé d'avance. C'est pas à moi de me dire, nous sommes le 1er janvier aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire dans cette année ? Les choses sont déjà préparées jusqu'au 31 décembre 2012, comprenez ? Les choses sont là, C'est à moi d'avoir cette perspicacité, de me tenir devant Dieu en disant, Seigneur, qu'attends-tu et que veux-tu de moi ? Ça, c'est une question qui vous est posée à chacun. Qu'est-ce que je peux faire pour te plaire, Seigneur ? Qu'est-ce que je peux faire pour Eh bien là, que ma foi soit rendue visible, qu'elle soit rendue patente, qu'elle soit rendue vivante, pour que, à ce moment-là, on dise, eh bien, cet homme, il a la foi. Cette femme, elle a la foi. Ce jeune homme ou cette jeune fille, il a la foi. Parce qu'il y a, non pas des bonnes œuvres, mais des fruits. Et nous allons le voir d'ici quelques instants, pour que nous les pratiquions. Voilà. Parce que le savoir, de connaître tout cela, être même dans la bonne doctrine, dans la sainte doctrine de Dieu, si nous ne le pratiquons pas, ça sert à quoi? Ça ne sert strictement à rien. Alors, nous allons développer ce texte de Paul avec un autre passage dans la Bible que nous allons retrouver d'ici quelques instants, hein, dans l'évangile de Matthieu, mais où il est question d'appel et de vocation. Nous avons été appelés au salut, et parce que cet appel pour le salut nous a été consenti, que nous l'avons entendu et que Dieu nous a fait la grâce de le recevoir, il y a nécessairement derrière tout cela une vocation. On pourrait toujours dire, le premier jour de notre foi en Dieu, confession en Jésus-Christ, le jour de notre baptême, « Seigneur, je suis sauvé, j'attends ton retour et je ne fais plus rien. » Ce n'est pas cela. Il nous est parlé d'appel, mais pour remplir une fonction, une vocation. Vous allez peut-être me dire, ou dire comme peut-être comme Moïse, « Mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Parce que je suis rien, je ne sais rien, je ne peux même pas parler. » Ça, c'était le problème de Moïse, c'était le problème de Jérémie, qui pouvait peut-être s'adresser à la jeunesse d'aujourd'hui en disant « Mais Seigneur, je ne suis qu'un enfant et je n'ai aucune maturité. » Ça peut s'adresser à un homme comme Salomon lorsqu'il est arrivé à la royauté en disant « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je te demande autre que la sagesse et l'intelligence pour conduire ce peuple ? Parce que moi, je suis qu'un jeune homme, je ne sais rien. » Alors, ne vous tracassez pas. Si vous ne savez pas grand-chose, c'est le Seigneur qui va vous enseigner. Si vous ne pouvez pas grand-chose, c'est Dieu qui va le faire à votre place. Mais il va falloir que nous consentions, eh bien, à aller dans le sens dans lequel nous sommes menés. Parce que chacun d'entre nous, nous avons des talents, nous avons... Eh bien, des facultés et des possibilités, des propriétés que Dieu veut exploiter. Et ça serait dommage de passer à côté. Vous allez peut-être dire, mais ça revient au pasteur. Non, non, je ne suis pas tout seul, nous sommes tous ensemble. Et mon ministère, eh bien, il est rendu valable à cause de vous. Parce que nous travaillons ensemble, parce que nous collaborons ensemble. Ce n'est pas les mots qui sont utilisés dans la Bible. Imaginez-vous que je sois tout seul pasteur. Bah, c'est bien des chaises vides, hein. Mais au bout d'un certain temps, je vais me fatiguer. Ah oui, mais c'est ça. On est tous membres les uns les autres. Alors, il y a la vocation. Et le mot vocation, je voudrais quand même donner une signification. Le mot vocation, bibliquement parlant, ça veut dire répondre à la voix de. Répondre à la voix de quelqu'un. Et en l'occurrence, il s'agit de Dieu, de Jésus-Christ. Et vous avez une vocation. Chacun d'entre nous, vous avez une vocation. Vous avez un appel. Mais vous avez aussi une vocation. Alors, je voudrais revenir brièvement sur la foi et les œuvres de la foi. Si vous vous souvenez, Jésus mettra les choses tout à fait au clair lorsqu'il parlera en ces termes à ses disciples, quand il parlera du cep et des sarments, il ajoutera ces paroles, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ça, c'est la base, c'est naturellement. Mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est pas vous. Je vous ai choisi, je vous ai élu. Je vous ai également établi, et le mot établissement nous parle de vocation aussi. Il met en avant notre service pour le Seigneur, et puis que vous portiez du fruit. Et le fruit, en l'autre terme, c'est pas de faire des œuvres miraculeuses. C'est pas de faire la démonstration d'une foi extraordinaire avec des signes et des miracles et des prodiges. C'est les fruits que nous portons. Les bonnes œuvres sont là. C'est pour ça qu'il faut pas confondre. Parce qu'on peut faire, et vous en conviendrez, on peut faire des choses extraordinaires sans être régénéré à l'intérieur de nous-mêmes. Vous comprenez ce que je veux dire? Sans être rempli du Saint-Esprit. Sans porter l'image de Christ et être à la ressemblance de Jésus-Christ. Alors, à ce moment-là, nous sommes sous le coup de ce que Jésus dira. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Vous êtes des ouvriers d'iniquité. Parce que, quelque part, eh bien, vous n'êtes pas menés par l'Esprit de Christ, qui est un esprit d'obéissance et d'humilité, mais plein de vous-même, et Paul ira jusqu'à dire dans les Romains, finalement, vous satisfaisez simplement votre propre ventre, avec tout ce que cela entraîne de division, de querelle pour avoir la première place. Alors, je rappelle, nous ne sommes pas sauvés par des œuvres, mais pour des œuvres. Si on intervertit et si on mélange, à ce moment-là, on se trempe. Et ce n'est plus du christianisme, ce n'est qu'une religion qui, finalement, développe une doctrine qui n'est plus la doctrine de l'Évangile. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour Jésus-Christ, pour notre salut éternel, pour que nous accomplissions les choses qui ont été préparées d'avance. Pour. Et ça, c'est important. Préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Quand Dieu a créé le monde, parmi toute la création, il a créé les oiseaux et il les a fait pour voler. Normalement, c'est comme cela. Comme le disciple a été créé pour servir. Ouais. C'est pas seulement un contentement de Dieu en disant « ce sont des gens bien gentils et je vais les prendre dans mon ciel de gloire le temps venu, mais nous avons été créés tout simplement pour servir. » Les œuvres que Paul appellera les bonnes œuvres ou les œuvres bonnes découlent de notre foi et donnent la preuve que Dieu a préparé d'abord en nous et pour nous les fruits de la foi qui témoignent que nous sommes bien l'ouvrage de Dieu. Parce que si on fait l'étude, l'analyse de ce passage, Éphésiens chapitre 2, verset 10, c'est comme cela que nous devons comprendre les choses, c'est que tout cela, eh bien, ça témoigne tout simplement que nous sommes bien l'ouvrage de Dieu. Dieu ne va pas employer des gens qui ne seraient même pas nés de nouveau, qui ne seraient pas convertis, qui n'auraient aucune notion de l'Esprit de Dieu, même pas revêtus de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes l'ouvrage de Dieu par une nouvelle création et nous avons été créés, et je vais le dire, pour faire du bien. Pas pour faire du mal. Pas pour faire des choses à demi, mais les faire entièrement parce que Dieu est parfait. Pour faire le bien. D'ailleurs, si vous lisez l'épître de Paul à Tite, je dis bien Tite, il n'est pas très connu, hein, mais toute l'exhortation de l'apôtre encourage Tite à faire le bien. Vous relirez, vous verrez combien de fois le mot fait le bien. Fais le bien. Pratique le bien. Donc c'est ça, le croyant, il est fait pour cela. Servir, mais de servir dans le bien. Ces bonnes œuvres sont le résultat du travail de Dieu comme un arbre est vivant. Oui, parce qu'il y a des arbres morts. Mais comme un arbre est vivant, non en raison des fruits qu'il porte, mais parce que les fruits qu'il porte prouvent qu'il est vivant. Est-ce que je me fais bien comprendre? Un arbre mort ne pourra jamais porter de fruits. C'est pas possible, puisqu'il est mort. Mais par contre, on va avoir la preuve que l'arbre est vivant, non pas au premier coup d'œil, parce qu'il a des branches, parce qu'il a des feuilles, parce qu'il a une ramure, etc. Mais on va avoir la preuve à cause des fruits qu'il porte. Et ça donnera la preuve qu'il est vivant, parce que s'il était mort, il ne porterait pas de fruits. Eh bien, un chrétien, c'est la même chose. Un enfant de Dieu, un disciple, on va dire, cet homme est vivant, il est vivant de l'esprit parce qu'il porte les fruits de l'esprit. Alors, les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience, la fidélité, la foi, la tempérance, et puis il y a la longanimité, enfin, bon, vous les retrouvez dans Galates, chapitre 5, verset 20. Voilà, vous le retrouverez. Vous savez qu'il serait ridicule d'attacher des pommes à un pommier, c'est mieux que des poires, mais d'attacher simplement, de suspendre aux branches à un pommier des pommes pour prouver qu'il est vivant. Ça serait complètement ridicule. Ce qui prouve qu'il est vivant, c'est qu'il n'a pas besoin de les attacher. Elles sont produites par le pommier, pourquoi? Parce qu'il a la vie en lui-même. Parce que vous savez, la vie, elle génère le fruit. Et s'il n'y a pas la vie authentique, il n'y aura pas de fruits. Ou alors il y aura des ersasmes de fruits, des contrefaçons de fruits. Ça ne sera pas le fruit qui est attendu. Alors à ce moment-là, et avant de passer à notre deuxième approche, le mérite n'en revient pas à nous. Et nous ne pouvons pas dire « je suis un bon chrétien » parce que je fais ceci et cela. Dans quel esprit nous faisons ceci et cela? Quelle est la motivation de notre cœur pour faire ceci et cela? Mais par contre, si véritablement les choses sont portées à celui qui est le Créateur, celui qui nous a sauvés, celui qui va faire de nos vies, qu'il a prises entre ses mains, eh bien un arbre vivant, alors à ce moment-là, il va y avoir quelque chose. Et il n'y aura aucun mérite. C'est pourquoi il nous est dit à un moment donné, mais ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Regardez le monde religieux, où tout repose dans la glorification de ce que l'on fait. Et on y met la loi. Et on se vante. Mais là, on est totalement et complètement en dehors de l'esprit de Christ et de l'esprit de l'Évangile. On a été éduqué comme ça. Si tu es un bon garçon, si tu es une bonne fille, eh bien Dieu va te bénir, va ceci et cela, mais attendez, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est pourquoi on a distribué des brevets et des titres de sainteté à tous ceux qui avaient fait quelque chose. Enfin, reconnu avoir fait quelque chose. Des œuvres méritoires, des œuvres de distinction par rapport aux autres. Mais vous savez, dans le ciel, il ne sera pas peuplé de ces gens-là, hein. Il sera peuplé d'hommes, de femmes qui seront à la ressemblance de Jésus-Christ, même peut-être avoir peut-être pas fait grand-chose. Mais ce qu'ils auront fait, et peut-être qu'une seule œuvre dans leur vie, peut-être pendant une heure, pendant une journée, ça devra être d'avoir été véritablement, eh bien, comme Jésus a voulu qu'il soit et qu'il fasse. Mais ça, ce n'est pas nous. C'est l'Esprit de Dieu en nous. C'est la grâce de Dieu en nous. Alors, quelquefois, on dit, mais je ne fais rien. Eh bien, si vous avez été appelé, si Dieu a préparé une œuvre préparée d'avance pour vous, pour que, à un moment ou un autre de votre vie, vous l'accomplissiez, peut-être pendant une minute, pendant une heure, pendant une journée, ou peut-être toute votre vie, peu importe, hein, parce que ce n'est pas une question de quantité, ce n'est pas une question de temps, mais c'est une question d'être. Et qu'à ce moment-là, vous rendez le fruit que Dieu attend de vous, eh bien, Dieu est glorifié. Et il le dira, et notamment par rapport à l'amour, hein, il dira, mais c'est ainsi que le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous portez beaucoup de fruits. Attention, les bonnes œuvres, c'est autre chose. Hein. Surtout dans l'esprit humain, c'est autre chose. Parce que la gloire doit revenir à celui qui nous a donné la vie et la faculté de porter du fruit. J'en arrive maintenant à l'explication d'un autre texte. On va ouvrir dans l'évangile de Matthieu cette simple parole. Et je vais la lire avec vous et vous allez voir que quand il est dit que ce n'est pas nous qui avons choisi le Seigneur, mais c'est lui qui nous a choisis, d'accord? Qu'il nous a élus, qu'il nous a établis pour que nous portions du fruit. Et que tout ce que nous pouvons lui demander en son nom, eh bien, il va nous l'accorder parce que nous sommes finalement dans cet état d'esprit. Alors nous pouvons dire, Seigneur, fais de moi un disciple. Seigneur, permets que je te serve. Permets que je sois véritablement dans la note qui est celle de ton esprit pour être l'homme, la femme, le jeune homme, la jeune fille, qui va être véritablement à sa place. Et là, il s'agit de quatre personnages que nous allons voir brièvement. Matthieu, chapitre 4, versets 18 à 22, nous allons le lire. Et vous allez voir ce que c'est qu'un appel. Et vous allez voir ce que c'est qu'une vocation. Et vous allez voir les fruits qui sont produits. Matthieu, chapitre 4, versets 18 à 22. « Comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Appel, vocation, ils laissèrent tout, et le suivirent. On va passer à l'étymologie des noms. Le premier s'appelle Simon-Pierre, et l'autre s'appelle André. Quand Jésus les rencontre, ce sont des hommes, ce sont des Juifs. Ils connaissent la parole de Dieu, ils ont été pétris dans cette culture, dans cette expression religieuse. Et quand il les trouve, ce sont des hommes. Mais la vision que Jésus a pour ces hommes-là, comme pour nous aujourd'hui, c'est leur devenir. Comprenez? Alors ça pose la question de savoir où nous en sommes. Nous pouvons avoir 20 ans, 30 ans, 40 ans ou 6 mois de conversion. Le regard que Jésus pose sur chacun d'entre nous, il sait qui nous sommes et il nous appelle par notre nom, souvent. Mais il a des projets pour que nous devenions. Ce n'est pas de nous laisser dans l'état. Ce n'était pas de les laisser sur le bord là, de leur barque en train de pêcher toute leur vie. Il y avait autre chose. Même s'ils avaient continué à pêcher, ils devenaient. Et vous savez, nous avons cette parole dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, quand il est dit ceci, « J'ai formé sur toi des projets, afin que tu aies de l'avenir et de l'espérance. » Moi, c'est ce qui m'a bouleversé, c'est ce qui m'a amené à la conversion, ce passage. C'est comme ça que je me suis converti avec ce texte. Ouais. Dieu dit, « J'ai formé sur toi des projets d'avenir, afin que tu aies de l'espérance. » Et je crois que tout homme, toute femme dont Jésus porte le regard et appelle, c'est qu'il y a l'être et le devenir. Ah, maintenant, je ne sais pas ce que je vais devenir, mais je sais que lui le sait. Ça, c'est différent. Alors, leur activité, il nous est rapporté le texte, ils étaient pêcheurs de leur état, et c'est tout un symbole dans le choix de Jésus. Jésus aurait pu prendre... je ne sais pas moi, des cultivateurs, il aurait pu prendre quelqu'un qui travaillait d'une manière ou d'une autre. Non, c'est parce que justement le choix est tout à fait particulier et prédestiné, et on s'aperçoit que le sens de leur nom, eh bien, révèle quelque chose. Simon veut dire en Simon, ça veut dire tout simplement celui qui entend. Alors pour répondre à l'appel de Dieu, il faut entendre, parce qu'il y a des gens qui écoutent mais qui n'entendent pas, ouais. Ou qui entendent mais qui n'écoutent pas. Parce qu'écoute, ça veut dire, quand on dit à quelqu'un écoute, ça veut dire obéir, hein, c'est ça. Et puis Pierre, donc l'autre nom de Simon, c'est caillou. Ouais. Faut être solide, hein, parce que répondre à l'appel de Dieu, il y a du bon, il y a du bon moment, il y a la gloire, il y a des choses qui sont extraordinaires, mais il faut être véritablement solide, inébranlable. Et puis André, ça veut dire homme fort. Mais pour devenir un homme fort, il faut être faible. Et c'est là le choix de Dieu. Quand Jésus a choisi Moïse, lui qui se croyait fort, il a attendu qu'il soit vraiment dans une position où il n'en voulait plus. Hein. Quand il a appelé Jérémie, on en parlait tout à l'heure, quand il a appelé David, ce n'était pas parce que tous ces hommes-là étaient forts. Quand on voit Paul, quand il est appelé Paul, Saul de Tarse, c'est un homme qui est rempli de force, mais avant de commencer à servir, eh bien voilà, il va falloir qu'il soit mis dans cette brise, et voilà, c'est le mot. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Ils jetèrent leur filet. Qu'est-ce que veut dire l'appel? Qu'est-ce que veut dire l'appel? Ça veut dire « suivez-moi ». Ça, c'est une parole. Parce que vous comprendrez qu'on ne suit pas n'importe qui. Le premier venu que je rencontre dans la rue qui me dit « suis-moi », je ne veux pas le suivre. Hein. En plus, les dames ou une jeune fille. Certainement pas. Mais là, il y a quand même quelqu'un qui nous appelle, mais on sait. Suivre. Qui suivre, d'abord? Est-ce que c'est une personne quelconque? Est-ce que ça peut être un mouvement? Il y a des gens qui sont des adhérents à un mouvement ou à une conception, pensée, religieuse même, à des idées. Suivre pour une réalisation personnelle, c'est encore une autre question qui est à débattre. Est-ce que c'est pour poursuivre une ambition ou une promotion? Peut-être que Pierre se disait, moi j'en ai par-dessus la tête, finalement, eh bien, de pêcher dans ce lac où il n'y a pas toujours du poisson, alors... J'ai une bonne opportunité, là c'est une promotion extraordinaire, de faire autre chose. Si un jour vous avez un pasteur qui vous dit « moi je suis en chômage et je voudrais être serviteur de Dieu », ne le prenez pas comme pasteur, parce que le Seigneur n'appelle pas des chômeurs. C'est pas comme ça que ça se passe. À la NPE d'ailleurs, il n'y a pas de titre pour ça. Non, non, faites attention, l'appel c'est pas ça. La destination de l'appel, c'est parce que ce sont des pêcheurs, mais des pêcheurs avec le petit chapeau sur la tête, vous savez, l'air sans circonflexe. Non plus des pêcheurs de poissons pour satisfaire aux besoins nutritionnels, mais maintenant ils vont devenir des hommes pour le royaume de Dieu et le salut éternel des âmes. Je resitue un peu les choses. On est chrétien pourquoi? On est chrétien, tout simplement, parce que nous avons... le titre d'ambassadeur d'un royaume. Notre roi, c'est Jésus. Et être ambassadeur, c'est une distinction. Hein. n'est pas ambassadeur de la France, eh bien, ne l'est pas n'importe qui ne l'est. Il y a un choix, il y a des capacités, il y a des... Déjà, dans les choses humaines, c'est comme ça que ça se passe. Et être ambassadeur ou ambassadrice, parce que les femmes peuvent être tout à fait de bonnes ambassadrices, hein, mais d'un royaume comme le nôtre, c'est encore une autre affaire. Et puis la destination, c'est le salut des âmes. Et je vais en dire deux mots d'ici quelques instants. Quand on prend un poisson, si vous êtes pêcheur à la ligne, quand on prend un poisson, lorsqu'il est sorti de son élément naturel, il meurt. Vous comprenez ? Oui, parce que c'est pas là où il va pouvoir vivre. Mais pêcher du poisson humain, c'est autre chose. C'est tout autre chose, parce qu'à ce moment-là, quand on le prend et quand on le pêche, c'est pour le faire vivre. Vous comprenez la nuance ? La destination est la vie, c'est pas la mort. Et c'est bien pourquoi Jésus a choisi des pêcheurs de poissons. Parce qu'il y a derrière une pensée, il y a derrière une illustration très forte. Et les gens auxquels je suis conduit à parler de Jésus-Christ, avec toute la sagesse et l'intelligence que me donne le Saint-Esprit, ce n'est pas pour les amener à les tuer, c'est pour les amener à les faire vivre. À les faire rentrer, comme dit l'apôtre Paul, finalement, d'une dimension dans une autre. Les faire sortir du camp de l'adversaire pour les faire rentrer dans le camp de Dieu. De les faire passer d'un royaume à un autre royaume. Le royaume de la mort au royaume de la vie. Mais ce poisson-là, il faut aller le chercher dans des eaux qui ne sont pas toujours très claires, dans des eaux troubles. Et les eaux troubles dans lesquelles le Seigneur nous envoie, c'est le monde. Et nous allons le pêcher en l'appâtant avec quelque chose de tout à fait particulier, qui est une folie pour les hommes. C'est l'évangile et la prédication. Vous savez ce qu'il nous est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1er ? C'est une folie la prédication. Et c'est comme ça que Dieu veut que les hommes soient sauvés. Ouais. Alors, c'est produit de la moquerie ou de la folie, toutes sortes de choses. Et nous voyons qu'en 3 années d'instruction, parce que ces hommes ont un devenir, mais d'abord ils vont passer à l'école, avant de commencer à parler au monde entier. Jésus va enseigner ses disciples sur la vraie technique spirituelle, le savoir-faire pour devenir un bon pêcheur d'âme dont les qualités essentielles sont la pratique, la sagacité et la persévérance. Je reprends les choses. La pratique. On ne gagne pas à tous les coups pour gagner des âmes. Et même Jésus a eu des échecs quand il s'agit du jeune homme riche. Vous connaissez ? Le maître nous apprend qu'il peut y avoir des échecs. Mais il faut le pratiquer. Si nous disons, Seigneur, voilà, je sais que tu m'as donné une vocation, je sais que je dois parler, je suis un ambassadeur de ton royaume, je dois vivre surtout. Mais Seigneur, je dois le pratiquer, parce que si je ne le pratique pas, eh bien, il ne se produira rien. C'est comme un pêcheur qui va au bord de l'eau, qui s'assoit, il a tous ses instruments, il est même confortablement installé, il a tout ce qu'il faut, et qui ne déploie pas sa ligne. Il peut toujours attendre. Eh bien, c'est la même chose pour un chrétien. Si véritablement nous avons tout ce qu'il faut, mais que nous ne déployons pas le matériel nécessaire, rien ne se prendra à l'action. La sagacité, c'est une disposition, c'est une faculté qui nous permet de comprendre, qui nous permet de je ne dirais pas de deviner, mais de saisir la pensée de l'esprit. Il y a un savoir-faire. Je trouve que dans le mot sagacité, il y a sagesse aussi, probablement, en dérivé. Ou en allant un peu plus loin dans le mot, la sagesse. Et ce n'est pas la nôtre, c'est celle qui vient du Seigneur. Et puis de la persévérance. Pour ceux qui ont déjà expérimenté ce que c'est que la pêche à la ligne, quelquefois on y va tout enthousiasme. Et puis on passe une journée, on revient avec rien. Je peux vous dire que ça vous décourage les plus vigoureux. En disant, je croyais que ça allait marcher, etc. Et oui, c'est comme ça. Eh bien, on ne baisse pas les bras, on continue à être et à faire ce qui est nécessaire. Et puis, nous voyons que dans ce texte, eh bien, il nous est parlé au verset 19, que je vais simplement remettre devant vous. Il nous est dit que donc, il leur dit, suivez-moi, je vous ferai pêcheur d'hommes. Il y a quelque chose dans ce suivez-moi, une notion qui est la notion d'obéissance pour celui qui entend. L'obéissance du cœur soulignée par la spontanéité. Vous savez qu'il y a une petite parabole dans l'évangile de Luc où le Seigneur dit Alain, viens et suis-moi. Il dit, mais Seigneur, j'ai déjà tellement de choses à faire. Il faut que j'arrange les choses de ma maison. Il faut que, eh bien là, j'accompagne mon père jusqu'à ce qu'il quitte cette terre, etc. Ce sont des prétextes et des excuses, naturellement. Donc, l'obéissance du cœur soulignée par la spontanéité. Et ça, c'est la révélation, c'est déjà le premier fruit d'un cœur qui a été conquis. La première chose que l'on voit chez un nouveau converti ou quelqu'un qui vient à la foi, c'est tout de suite son désir de vouloir parler autour de lui, de vouloir faire connaître. Et ça, c'est quelque chose de magnifique, c'est une fraîcheur, c'est le printemps en quelque sorte. Ce qui donne l'idée de la conviction à l'appel divin, c'est cette réponse immédiate et sans équivoque qui dévoile d'une part l'autorité de Jésus, les qualités qu'il recherche dans ses disciples. Oui. Nous ne partons pas sans rien. Dieu nous a dotés de capacités. Ne disons jamais « je n'ai pas de talent, je n'ai pas de mine, je n'ai pas ceci ou cela ». Si nous regardons les autres en disant « j'aimerais avoir ce qu'il a », eh bien là nous nous trompons. Regardons d'abord à l'appel que Dieu nous a adressé. Si nous en faisons un sujet de prière en disant « Seigneur, tu m'as certainement donné des capacités, tu m'as donné quelque chose, je ne suis pas finalement avide », eh bien vous allez découvrir que si vous nourrissez cette pensée dans la prière, Dieu va vous conduire, va développer, va amplifier ce qu'il vous a donné. Au départ, ce n'est peut-être qu'un grain de sénévé, vous ne l'avez pas aperçu. Et puis au fur et à mesure, vous allez voir. Ça, c'est une chose que nous sommes, nous, pasteurs, obligés de développer. Parce que autrement, l'Église ne va pas grandir. Puis d'ailleurs, on ne va pas grandir nous-mêmes. Mais nous devons nous tenir devant Dieu en disant, « Seigneur, eh bien, il y a certainement quelque chose que tu m'as donné en plus, toujours en plus. » Et on s'en aperçoit à un moment donné pour nous-mêmes. Je ne sais pas ce que les autres peuvent apprécier, mais toujours est-il, on se dit, « Mais Seigneur, par la grâce, par ta grâce seulement, et en gardant vraiment cette position d'humilité, mais Seigneur, je m'aperçois que finalement, c'est toi qui me conduis. Hein, et que toute la gloire t'en revienne. Hein, ce n'est pas à nous. Hein. » Développez dans votre prière quotidienne la recherche de la pensée de Dieu, de ce quoi vous êtes appelé à être, à devenir. Et vous allez voir, dans la prière, dans la louange, dans le service, dans ceci et cela, et ça va devenir de plus en plus, vous allez l'avoir de plus en plus à cœur. Et à un moment donné, excusez-moi, je vais reprendre l'image du pêcheur, vous serez comme un poisson dans l'eau. Il n'y aura plus d'appréhension, il n'y aura plus de crainte. Vous allez vous affranchir vous-même et vous allez devenir avec des capacités que vous ne pouviez pas soupçonner. Et ça, c'est extraordinaire. C'est formidable. Et oui, moi je vous dis ça pour vous encourager. L'Église est en deçà, excusez-moi. Bon, ce n'est pas une appréciation négative que je suis en train de dire, mais c'est le travail de tous les pasteurs pour que chacun nous grandissions. Chacun nous puissions nous développer. Et chacun nous apportions notre pierre à l'édifice qu'est l'Église. C'était le souci de l'apôtre Paul. Hein. Il ne se relâchait jamais. Alors je ne dis pas ça pour dire, eh bien nous sommes en déficit, ou vous êtes en déficit. Non, c'est justement un encouragement de dire, eh bien Seigneur, donne-moi d'aspirer encore, de plus en plus. Et il y a bien quelque chose dans ma vie qui va me distinguer de mon frère, de ma sœur, et qui fait que je suis ce que je suis, et que tu me l'as donné. Alors ce trésor, cette perle de grand pli, où est-elle? Montre-la moi, Seigneur, pour que je puisse la partager avec les autres. Vous comprenez bien tout cela. Et puis, il faut être prêt à suivre totalement et sans différer toute occasion favorable de servir le Seigneur. Quelquefois, on se dit, mais Seigneur, ça ne me convient pas trop, ce n'est pas pour moi. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas faire, parce que bon, nous ne sommes pas appelés à les faire. Et on n'a jamais à forcer quelqu'un à faire des choses qu'il ne se sent pas à faire. Mais néanmoins, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu va nous conduire, il va nous mettre dans des positions, dans une situation où nous pourrons développer vraiment ce qu'il nous a donné. Alors, nous devons passer de pêcheurs, vous savez, pêcheurs de poissons à gagneurs. Pêcheurs de poissons à gagneurs d'âmes. C'est important, ça. Nous sommes tous les uns et les autres des évangélistes, potentiellement. Mais ça ne se fait pas de n'importe quelle manière. On n'est pas là pour faire du prosélytisme. On n'est pas là pour, montrer du doigt ceux qui sont perdus en disant « moi je suis sauvé » et parler, il y a des mots qu'il ne faut pas prononcer. Mais vous savez, on doit avoir le regard et l'approche de Jésus qu'il a eu pour ce jeune homme riche qu'il n'a pas pu convaincre. Il nous a dit, il l'a regardé, il l'a aimé, Et ensuite, il lui a dit. Vous connaissez hein, ce texte, hein, j'en ai souvent parlé, parce que moi, pour moi, c'est le nec plus ultra de l'évangélisation. Il l'a regardé. Il l'a aimé. Et ensuite, il lui a dit. Souvent, nous mettons les choses dans le contraire. Nous commençons à dire sans aimer et sans faire tellement attention à qui nous adressons. Alors, ils laissèrent tout, nous dit le passage. Et que veut dire laisser? Que veut dire tout laisser? Est-ce renier ou tout simplement mépriser l'histoire, notre histoire passée ou nos affections? Est-ce que ça veut dire cela? De dire, eh bien, parce que là, on passerait pour des fanatiques, hein? Non? Ce n'est pas de dire, on tire un trait maintenant sur toute notre histoire. Il faut penser qu'on peut avoir une famille, on peut avoir un mari, on peut avoir une femme, on peut avoir des enfants. Oui, mais les choses vont se mettre en place avec le temps. Alors, laisser. Ça veut dire tout simplement donner la priorité à Jésus. Lui donner la première place. Si vous cherchez le royaume de Dieu et sa justice, le reste vous sera donné par surcroît. Et ça ne se fait pas forcément du jour au lendemain. Il y a des gens et des femmes qui sont appelés à tout laisser. C'est la condition des missionnaires. C'est la condition des pasteurs où nous avons dû souvent tout laisser pour répondre à l'appel de Dieu. Mais j'ai toujours remarqué, et je tiens à le dire à chaque fois, qu'en laissant tout, nous avons tout. Oui. Alors, il ne faut pas avoir de crainte. Hein. Nous avons tout. Mais Dieu nous prépare au fur et à mesure. Et ça ne se fait pas dans un instant. C'est vrai que pour Pierre, c'est vrai que pour Matthieu, il a tout laissé hein, dans son bureau de péage. Mais souvenons-nous de cette image que Jésus nous laisse, cette parole. Cherchez d'abord premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Mais il y a un temps de préparation dans tout ça. Et si vous avez quelque chose à cœur, si vous avez quelque chose qui pèse sur dans votre vie intérieure, dans votre moi profond spirituel, eh bien, ça va se faire. Ça se fera à un moment ou à un autre pour que vous arriviez à votre vocation que Dieu, à laquelle il vous a destiné. Ça, c'est important. Je voudrais dire également que lorsque nous répondons à cet appel, que nous laissons certaines choses, que nous laissons nos filets, comme Pierre et André, désormais d'autres filets nous seront confiés. Et ceci, ce sont les filets par excellence de la prédication de l'évangile, du témoignage. Je vous ai parlé que c'était une folie pour les uns, un sujet de moquerie pour les autres. Alors, si nous prenons le texte que nous avons médité précédemment, suivre, c'est renoncer, et la seule force qui rend capable de jeter et de ramener sans cesse ces filets que Dieu nous a donnés, c'est l'amour. L'amour du Seigneur et l'amour des âmes. Parce que jeter un filet, c'est le jeter, mais de le ramener. Et quelquefois, vous avez vu, hein, il faut des efforts. Hein. C'est quand vous voyez les marins là, qui sont en pleine mer, on voit, c'est l'amour. Ça, c'est la règle. Et puis, il y a deux autres appelés, je vais passer rapidement, deux autres appelés, c'est Jacques et Jean. Jacques signifie usurpasseur, qui a donné le nom Jacob, ou Jacob a donné le nom Jacques. Vous connaissez Jacob, usurpateur. Et Jean veut dire don de Dieu. Et vous allez voir que quand on fait l'association et on se interroge qui sont-ils et que deviendront-ils, cela nous est mentionné qu'ils sont issus d'un homme qui s'appelle leur père Zébédée. Et Zébédée a pour sens l'éternel donne. C'est un nom prédestiné pour un homme qui donne à son tour ses fils, oui, pour le service de Dieu. Et nous voyons que là aussi Dieu ne fait pas les choses au hasard. Ouais, Zébédée donne Jean et il va donner également eh bien, Jacques. Et son nom veut dire justement celui qui donne, l'éternel service de Dieu. Une autre question, que faisait-il dans la barque? Il réparait leurs filets. Simon et André jetaient les filets. C'est une belle image de la vocation d'évangéliste et de témoin, d'ambassadeur, alors que Jacques et Jean les réparaient. Ouais, il y a une place pour chacun. Il y en a qui vont jeter et d'autres qui vont réparer. C'est un travail complémentaire. Hein. Et dans l'œuvre de Dieu, c'est ça justement, c'est cette vision que nous devons avoir de complémentarité. Et il les réparait de quoi? Il les réparait les dommages occasionnés par leur maniement, parfois brusque, et l'effort. Donc les filets, à un moment donné, soit il traîne dans le fond, il ramasse toutes sortes de choses qui les déchirent, ou alors il y a toutes sortes d'incidents qui arrivent. Donc, avant de les remettre en mer, il faut les réparer. En d'autres termes, il remettait en état. Peut-on y voir le travail minutieux des pasteurs et des bergers des âmes? Il y a les évangélistes, dont nous avons parlé à travers André et Simon, et puis il y a également les autres, ces deux-là que nous venons de nommer, qui sont, eh bien là, encore d'un autre, une autre vocation, un autre travail, les pasteurs et les bergers des âmes, qui sont les reconstructeurs, les réparateurs des vies abîmées. L'Église, elle est faite comme ça. Il y a un témoignage qui va à l'extérieur, mais un témoignage qui doit être aussi d'une pratique, à concrétiser à l'intérieur. Une fois que les âmes viennent, elles viennent dans quel état ? C'est pour ça que Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous réparerai. » Enfin, comprenez ce que ça veut dire. « Je vous donnerai du repos. » Dans la vocation chrétienne, il y a ceux qui vont à l'extérieur, et nous sommes tous appelés à aller à l'extérieur. Mais à l'intérieur, il se passe quelque chose. Et j'ai toujours considéré, je le dis, même si quelquefois on a souri à cela, mais peu importe, l'Église doit être un havre de paix. Exit les querelles, exit la critique, exit tous les conflits qu'il y a à l'extérieur, parce que si les gens viennent de l'extérieur dans l'Église et trouvent pire, et encore comme ce qui se passe dans le monde, ce n'est pas la peine qu'ils viennent. L'Église est un lieu, une maison de soins. Et vous savez, quelquefois pour certains, il faut des années et des années. Même après des années et des décennies, nous sommes encore en soins. Oui, oui. Et il y en a qui vont jeter les filets et d'autres qui réparent. Oui, reconstructeurs. On refait comme un certain message qui avait été donné dans un culte. On répare les embarcations. Oui, afin qu'ils reprennent la mer pour arriver au rivage d'en face. Parce que si vous lancez un bateau qui a plein de trous dans la carène et qui n'est pas à même d'affronter les tempêtes de la vie, il va couler encore. Hein. Donc, voilà la réparation. Pour continuer la tâche, il importe que nos filets soient toujours en bon état, naturellement. Parce que les négligences et les inconséquences sont comme des trous par où s'échappent les vies précieuses, les âmes précieuses. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin d'être très près du Seigneur et qu'il nous donne un savoir-faire. Moi, j'aime bien cette prière. C'est une prière qui n'est pas dans l'abîme, mais elle est inspirée. Seigneur, donne-moi des mains de berger. Donne-moi un cœur de berger pour aimer. Donne-moi des yeux de berger. Donne-moi des pieds de berger pour aller chercher celui qui s'égare. Ouais, c'est ça ce que nous avons besoin. Les mains des travailleurs passent par des activités terrestres à celles qui vont devenir des activités célestes. Ouais. Et nous sommes là, nous en sommes là. Et qui vont quitter leur outil de travail, ce qui suppose le sacrifice pour une vie par la foi, s'éloigner de leurs affections légitimes. C'est ce qu'ils vont faire, ces hommes. Et Jésus le dira bien. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voilà. Simon-Pierre et André, Jacques et Jean, ce sont deux paires de frères. C'est comme ça qu'on dit, hein ? Deux et deux et deux et deux. Deux paires de frères. Et c'est un choix intelligent du Seigneur que je voudrais porter devant vous pour construire dans l'unité en perspective d'une immense famille universelle. Il a choisi deux paires de frères pour que son Église devienne une famille. Moi, je trouve que c'est beau. Hein. Et non pas un club, non pas un syndicat de pêcheurs ou de ce que vous voudrez. Ouais. L'idée, elle est là. Parce que la famille de Dieu, les poissons qui ont été pris dans les filets, qui ont été ensuite réparés dans l'Église, eh bien, il doit y avoir quelque chose, un climat qui est au milieu de nous. C'est l'amour de Christ, l'amour des uns et des autres. Avant de terminer, apparaît à l'évidence trois verbes qui représentent des actions. Appeler est cité une fois dans notre texte. Laisser est cité deux fois et suivre cité trois fois. Et voilà que l'école commence. Appeler, laisser et suivre. Quand je suis rendu déjà à la troisième étape, à ce moment-là, le Seigneur me dit « Tu es à l'école ». Qu'est-ce qui s'est passé pour André, Pierre, Jean et Jacques, ils ont été 3 ans à l'école. Ils ont été là devant le maître, à ses pieds, pour écouter ses messages, voir ses miracles. Et c'est qu'après les 3 ans, le Seigneur leur a dit « Maintenant, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Il y a une préparation en tout. Ça, c'est important. Alors, enseigner, dire, rapporter, annoncer, faire connaître. C'est un exemple qui doit nous inspirer. Ouais. Enseigner, prêchant, guérissant, nous dit le verset 23, il parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Ce que nous avons devant nos yeux. Prêcher, ce n'est pas du prêchi-prêcha, comme l'on dit. Cela veut dire annoncer, mais sans discuter. Cela veut dire annoncer sans amener des raisonnements puérils ou stériles. La finalité est de convaincre et d'amener à la foi qui sauve. Il y a une chose que nous avons besoin de dire aux gens qui nous environnent. Et la partie n'est pas facile quand il s'agit de notre famille. Je vous le conçois, nul n'est prophète dans sa propre maison. Mais une chose qui est certaine, c'est que comment pouvons-nous convaincre les gens ? Ce n'est pas tant par des arguments, ce n'est pas tant par des paroles ou des versets bibliques qui sont débités. C'est surtout en ce que nous disons et ce que nous vivons. Notre vie parle plus que nos paroles. Et quand les gens sentent qu'ils sont aimés, qu'ils sont pris en considération, que nous avons de la compassion pour eux, pour leur situation, pour leur passé, pour leur histoire, et que nous leur présentons Jésus qui peut finalement faire pour eux ce qu'il a fait pour nous, je peux vous dire que ça change tout. Ce n'est pas du prosélytisme. Nous ne sommes pas à courir comme les pharisiens le monde entier pour faire finalement un disciple pour nous ou pour l'Église que nous représentons. C'est autre chose. Vous avez remarqué avec moi, il est dit, Jésus parcourait. Oui. Jésus n'a pas attendu qu'on vienne à lui. Il est allé vers, il parcourait. Et nous avons besoin d'être toujours dans cette disposition d'être prêts à aller où le Seigneur nous demande d'aller. Ouais. Les ambassadeurs du royaume de Dieu sont donc des hommes et des femmes qui sont mobiles et prêts à aller partout le monde. Et c'est une disposition. Vous avez remarqué avec moi, il nous est dit qu'il enseignait dans les synagogues. Alors, ça commençait par là. La synagogue est réputée pour être un endroit ou des endroits où il y a la foi en Dieu. Et c'est là où, peut-être, c'est le plus difficile, quand vous rencontrez des gens qui disent « moi, j'ai la foi en Dieu ». Mais on peut avoir la foi en Dieu sans être converti, sans être repenti. Ce n'est simplement qu'une profession ou une confession. Et vous avez des milliers et des millions de gens autour de nous qui vous diront « mais moi, je suis chrétien ». Et le Seigneur nous envoie dans cette synagogue-là. Elle commence peut-être parfois par notre famille et peut-être une famille où il y a des croyants dans notre propre milieu. Et vous allez voir, et vous le savez déjà parce que vous en avez fait l'expérience, c'est pas là où on est le mieux reçu. Parce que normalement, on serait censé à être accueilli en disant « mais c'est formidable, tu nous parles de Jésus, tu nous parles de l'Évangile, tu nous parles d'une transformation de vie. Tiens, Néni, je peux vous dire que les gens, quand vous leur dites ça, ils sont prêts à, quelquefois, à vous pendre haut et court. » Parce qu'ils vous connaissent trop bien. Ils vous disent « mais on t'a vu grandir, qu'est-ce que tu es en train de nous raconter ? Mais tu es parti en dérive dans une secte, mais tu te rends compte ? C'est terrible. Et arrête de lire ta Bible tous les jours, parce que tu vas t'intoxiquer, tu vas finir à l'exil, à l'hôpital psychiatrique. » On a entendu tout cela, n'est-ce pas ? Eh oui. Alors la synagogue, c'est un endroit réputé pour y avoir la foi. Mais certainement, pour y faire entendre d'abord le message qui purifie, qui assainit, qui rafraîchit, qui restaure la foi, et souvent une foi qui est endormie, sinon somnolente, anesthésiée par le formalisme, par le ritualisme, la calcification religieuse et l'ankylose, sinon la paralysie provenant d'un légalisme étroit. Et vous savez, les gens qui se disent souvent, quelquefois, appartenir à Dieu, peuvent vous dire que moi, je préfère rencontrer des gens qui me disent « moi, je ne comprends rien ». Parce que avant de construire, souvent chez les autres, il faut démolir. Ce n'est pas nous de démolir. On n'a pas à les démolir. Mais quand vous avez un terrain qui n'a rien du tout, c'est facile à construire. Mais quand vous avez affaire à des gens qui s'imaginent être et qui ne sont pas, croire et qui ne croient pas finalement que ce n'est qu'une croyance, c'est pas évident, hein. Et moi, je pense que si Dieu nous envoyait dans la synagogue, comme Jésus est rentré en priorité dans la synagogue, dans les synagogues, c'est parce qu'il savait très bien qu'il y avait là quelque chose à y faire, dans la mesure où les gens qui y étaient voulaient bien se laisser saisir par la vie de l'Esprit. Et c'est laisser conduire, parce que notre message, c'est de redonner la vie. Ouais, de redonner la vie. Je termine, verset 24. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amena, ou lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs et de divergences, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Nous voyons que Jésus atteint les souffrances de l'humanité, et il est venu pour soulager, pour guérir et délivrer. C'est une expérience de vérité qu'est cette voie royale qui est la guérison divine. Et le fer de lance, et je le dis et je le répète, c'est pourquoi je n'ai jamais renoncé, après des années, de prier pour les malades à l'imposition des mains. Ça paraît peut-être désuet aujourd'hui en disant, mais on n'est plus à ce temps-là. Ben vous m'excuserez, moi je prêche l'Évangile et j'offre la possibilité aux hommes et aux femmes, comme Jésus le faisait, de venir pour que l'on prie pour eux en leur imposant les mains au nom de Jésus pour qu'ils soient guéris, pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils soient délivrés, pour qu'ils soient affranchis du mal et de la maladie. C'est ce que Jésus faisait, tout simplement. Alors, en raison de cela, eh bien, l'Évangile va faire tale d'huile. Et combien de nos églises, à une certaine époque, et nous pouvons prier pour que Dieu nous envoie le souffle de l'Esprit, à une certaine époque, nos églises ont été construites, elles ont été bâties, elles ont été fondées sur ce principe que Jésus a mis devant ses disciples. Vous prierez pour les malades et les malades seront guéris. La guérison divine, c'est la voie royale. Et sa renommée se répandit. C'est une espérance à l'adresse de tous les malheureux, de tous les infortunés de la vie qui accourent en foule vers Jésus. Les malportants, les douloureux du corps et de l'âme, les démoniaques délivrés, nous l'avons lu, les déséquilibrés revenus à leur bon sens. Parce que tout ça, ce sont des faits patents qui soulignent à l'évidence que Jésus et son message offrent encore pour aujourd'hui le pouvoir miraculeux et surnaturel qu'il a la suprématie et l'autorité absolue sur tout mal. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » C'est cet évangile-là que nous sommes, dont nous sommes dépositaires et dont nous devons porter autour de nous. Appel et vocation. Et on n'est pas appelé à autre chose. Enfin, moi, personnellement, je ne me sens pas appelé à autre chose. C'est à cela. Et chacun d'entre nous qui partageons la vie de cette Église, je voudrais le rappeler, c'est que c'est notre appel et c'est notre mission, l'évangélisation, les hommes et les femmes qui sont autour de nous. Alors il y a, peut y avoir toutes sortes de réactions, mais peu importe, on avance. Parce que si on doit attendre finalement la bonne humeur ou la mauvaise humeur, à ce moment-là, on ne fera jamais rien. Mais nous avons cette parole et elle est importante. Je termine par cette citation que Jésus nous laisse dans Jean chapitre 4 et verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a 4 mois jusqu'à la moisson, vous connaissez le texte, hein, après l'histoire de la Samaritaine ou dans l'histoire de la Samaritaine. Et Jésus répondra à ses disciples, voici je vous le dis, levez vos yeux, regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Jésus avait raison. Je crois que nous sommes dans des temps de grande stérilité spirituelle, d'indifférence, de désaffection de la foi. Mais ce n'est pas parce que nous vivons ces temps-là, comme il y en a eu dans toute l'histoire d'Israël, dans toute l'histoire de l'Église pendant 20 siècles de l'ère chrétienne, ce n'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras. Oui, regardez, les champs blanchissent et la moisson est prête. Alors, je pense que nous sommes et nous demeurons dans des temps de mission pour la moisson céleste. Et ça, c'est important. En nous souvenant d'une chose, et je termine sur le passage que nous avions pris dès le départ, dans Éphésiens, qui est tout à fait approprié quand il est dit ceci, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ouais. Par le moyen de la foi, et nous demeurons dans la foi, et si nous demeurons dans la foi, nous aurons toujours cette vision du Seigneur de gagner des âmes. Cela ne vient pas de vous, merci Seigneur, parce que ça me rassure, moi qui pensais que j'étais capable de faire quelque chose pour toi, ben je m'aperçois que si tu n'es pas là, moi, je ne suis capable de rien du tout, puisque tu m'as dit que sans moi, tu ne pourras rien faire. Et plus je me rapprocherai du Seigneur, plus je serai j'aurai cette capacité. C'est souvent dans ma faiblesse que Dieu se sert de cette faiblesse même pour faire passer sa force. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne me glorifie. Et lorsque j'aurai gagné une personne, que j'en aurai gagné 10, 100, 1000, 10 000 personnes, eh bien je ne pourrai pas me glorifier parce que ce n'est pas moi qui ai fait les choses, c'est toi qui t'es servi tout simplement de moi. Parce que j'ai bien voulu être entre tes mains un agent de ton esprit, car nous sommes son ouvrage. Le Seigneur est en train d'œuvrer dans nos vies, hein, ne serait-ce qu'à entendre ce passage, ce message. Nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ, nous ne sommes pas créés pour autre chose, c'est en Christ. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Merci Seigneur, parce que ma feuille de route, le mandat, je l'ai déjà. Hein. Si je veux bien me tenir devant toi en disant, que puis-je faire Seigneur? À quoi puis-je te servir? Quelle propriété, quelle faculté, quelle capacité tu m'as donné? Révèle-moi, Seigneur. Et vous allez voir que ça va venir. Vous allez voir qu'il va y avoir une nouvelle dimension dans notre vie, voire même dans l'Église. Parce que quand il y en a quelques-uns qui commencent à se réveiller, qui commencent à rentrer dans cette dimension, c'est toute l'Église qui en bénéficie, naturellement. Afin que nous les pratiquions. Merci, Seigneur. Tu as tracé une voie et je veux marcher dans cette voie. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce. Et nous verrons probablement la prochaine fois cette parole où Jésus nous dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie, il faut que je les rassemble. » Mais le Seigneur va les rassembler par qui? Il va les rassembler par l'Église, par chacun d'entre nous, on verra ça plus tard. Que Dieu nous bénisse, on va prier quelques instants, si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as rappelé ces principes qui est celui de l'appel et celui de la vocation. Seigneur, nous croyons que tous les hommes qui ont été, Seigneur, créés en Jésus-Christ. Nous le sommes, non pas pour attendre tranquillement, Seigneur, que tu nous emmènes dans ton royaume pour l'éternité, mais tu nous laisses sur terre. Et si tu nous laisses sur terre, c'est que parce que nous avons quelque chose à faire. Nous avons un témoignage verbal, mais surtout nous avons un témoignage de vie, Seigneur, à donner auprès de nos maris, nos femmes, nos enfants, auprès de nos amis, auprès de nos collègues de travail, auprès de ce monde, auprès de gens connus et des gens inconnus. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Et si tu as choisi, Seigneur, en effet, Père éternel, eh bien André et Simon, si tu as choisi Jacques et Jean, c'est parce que véritablement il y avait tout à fait quelque chose. Et si tu nous as appelés, ce n'est certainement pas le hasard. Ouais, parce que chacun détient quelque chose qui vient de toi, et c'est par grâce. Alors merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci pour ta bonté, ta fidélité, ton amour. Alors surtout, nous croyons que le nec plus ultra, au fond de nos cœurs et dans nos vies, c'est l'amour de Christ, la passion des âmes. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.